Je parviens enfin à l'église. Le portrait géant de Claude Monet me regarde du haut de ses 15 mètres. On rénove l'église Sainte-Radegonde. Les travaux et l'échafaudage sont masqués par une immense affiche de toile. La photographie du maître en noir et blanc, palette à la main. Je n'ai pas le courage de me hisser jusqu'au cimetière. Pourtant, tous ceux que j'ai croisés dans ma vie, tous ceux qui ont compté sont enterrés ici. Étrangement, presque à chaque enterrement, il pleuvait. Comme s'il eût été indécent que la lumière de Giverny brille un jour d'inhumation. Il pleuvait en 1937, le jour où mon Paul, mon Albert Rosalba, fut inhumé. J'étais effondrée. Il pleuvait encore en 1963, lorsque Jérôme Morval fut enterré. Tout le village était là, y compris l'évêque d'Évreux, la chorale, les journalistes et même Lorenz. Plusieurs centaines de personnes. Étrange destin. Il y a une semaine, j'étais seule à l'enterrement de Jacques. J'ai peuplé le cimetière de mes souvenirs plus vieux. Tu viens, Neptune ! En route pour la dernière ligne droite. Je redescends rue de la Dîme, droit vers le chemin du roi. Elle débouche juste en face du moulin. J'attends longtemps avant de traverser. Le flux de voitures quittant Giverny par la départementale est presque continu. Neptune patiente sagement à côté de moi. Une décapotable rouge avec une immatriculation compliquée, le volant à gauche, finit par me laisser passer. Je franchis le pont. Malgré moi, je m'arrête au-dessus du rue. Je détaille pour la dernière fois les tuiles et les briques roses du lavoir, la peinture vert métal du pont, les murs de la cour du moulin, à ma droite, d'où dépasse l'étage le plus haut du donjon et la cime du cerisier. Le lavoir est tagué depuis des semaines de visages noirs et blancs grimaçants. Personne n'a jamais nettoyé les briques. Peut-être par négligence, peut-être pas. Après tout, s'il y a bien un endroit où ça l'afficherait mal de nettoyer au Karcher les manifestations rebelles d'artistes anonymes, c'est bien Giverny. Vous ne pensez pas ? Le petit filet d'eau clair du ruisseau coule, comme s'il se moquait bien de l'agitation des hommes sur les berges. Ces moines qui jadis creusèrent à la main ce bief, ce peintre illuminé qui détourna la rivière pour créer un étang et qui s'enferma 30 ans pour y peindre des nénuphars, ce fou qui assassina ici tous les hommes qui s'approchèrent de moi, tous les hommes que j'aurais pu aimer. Qui cela peut-il bien intéresser aujourd'hui ? À qui se plaindre ? Existe-t-il un bureau des vies perdues ? J'avance encore de quelques mètres. Mon regard embrasse la prairie, sans doute pour la dernière fois. Le parking est presque vide. Non, finalement la prairie n'est en rien un paysage d'hypermarché. Non, bien entendu. C'est un paysage vivant, changeant, selon les saisons, selon les heures, selon la lumière. Bouleversant aussi. Me fallait-il être aussi certaine de l'heure de ma mort, aussi assurée de l'observer pour la dernière fois, pour le comprendre enfin ? Pourtant le regretter au final. Claude Monet, Theodore Robinson, James et tant d'autres ne se sont pas arrêtés ici par hasard. Bien entendu. Qu'il soit un lieu de mémoire n'enlève rien à la beauté d'un paysage. Bien au contraire. N'est-ce pas, Neptune ? Mon chien remue la queue, comme s'il écoutait mes ultimes délires. En réalité, il a déjà compris l'étape suivante. Il a pris l'habitude, avec le temps. Il sait qu'il est rare que je rentre dans la cour du moulin sans faire un tour dans la petite clairière juste derrière. Un saule, deux sapins. La clairière est aujourd'hui protégée des touristes par un grillage. On ne peut pas l'apercevoir du chemin. J'avance. Neptune m'a une nouvelle fois devancé. Il m'attend, couché dans l'herbe, comme s'il avait conscience de ce que signifiait ce lieu. J'arrive enfin. Je plante ma canne dans la terre meuble et je reste appuyé sur elle. Je regarde devant moi les cinq petits tumulus coiffés de cinq petites croix. Je me souviens, comment oublier. J'avais 12 ans, je serrais Neptune de toutes mes forces. Il était mort dans mes bras, 1 an après la noyade de Paul. Mort de vieillesse, me disait maman. Il n'a pas souffert, Stéphanie, il s'est juste endormi, comme un vieux chien. Je restais inconsolable, impossible de me séparer de mon chien. On ira en chercher un autre, Stéphanie, un petit chiot, dès demain.
Le même, je veux le même.
D'accord, Stéphanie, le même, on ira à la ferme à Auteuil. Comment voudras-tu l'appeler, ce petit chiot?
Neptune.
J'ai eu 6 chiens dans ma vie, tous des bergers allemands. Je les ai tous appelés Neptune. Par fidélité à un caprice de petite fille solitaire et malheureuse qui aurait tant voulu que son chien soit éternel, que lui, au moins, lui, ne meure pas. Je lève à nouveau les yeux. Je tourne avec lenteur la tête, de droite à gauche. Sous chaque croix, sur une petite planche, est gravé le même nom, Neptune. Seuls varient les chiffres sous le nom. 1922-1938. 1938-1955. 1955-1963. 1963-1980. 1980-1999. Neptune se lève, vient se frotter à moi comme s'il comprenait que pour la première fois, c'est moi qui vais partir, pas lui. Neptune sera recueilli à la ferme d'Auteuil. Ils y élèvent des chiens depuis des générations. Sa mère doit encore y vivre. Il sera bien. Je vais laisser une lettre avec des instructions précises pour ses repas, pour qu'on laisse des enfants jouer avec lui, pour qu'il soit enterré ici lorsque le temps sera venu. Je le caresse. Jamais il ne s'est serré autant contre moi. J'ai de plus en plus envie de pleurer. Il faut que je me dépêche. Si je traîne, je n'aurai pas le courage. Je laisse ma canne là, devant les 5 tumulus, plantée. Je n'en aurai plus besoin maintenant. Je marche jusqu'à la cour. Neptune ne me lâche pas 1 centimètre. Ce putain de 6e sens des animaux. D'habitude, Neptune serait allé se coucher sous le grand cerisier. Là, non. Il ne me quitte pas. Il va finir par me faire tomber. Un instant, je regrette d'avoir laissé ma canne. Doucement, Neptune, doucement! Neptune se pousse un peu. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de ruban d'argent dans les feuilles du cerisier. Les oiseaux s'en donnent à cœur joie. Je caresse encore Neptune, longuement. Je lève les yeux vers le donjon du moulin des Chenevières. Jacques a acheté le moulin en 1971. Il a tenu parole. Je l'ai cru, mon Dieu, je l'ai cru alors. Il me l'a acheté, la maison de mes rêves. Ce moulin biscornu qui m'attirait tant lorsque j'avais 11 ans. Avec l'arrivée des Parisiens dans le coin, son agence immobilière avait fini par être rentable. Il était à l'affût. Il a attendu le bon moment. Le moulin était inoccupé depuis longtemps, mais les propriétaires s'étaient enfin décidés à vendre. Il fut le premier sur l'affaire. Il a tout rénové pendant des années. La roue, le puits, le donjon. Il croyait me rendre heureuse. C'était si dérisoire. Comme si les geôliers s'amusent à décorer les murs des prisons. Le moulin des Chenevières n'avait plus rien à voir avec la vieille maison en ruine qui me fascinait. Le moulin de la sorcière, comme on l'appelait alors. Pierre lavé, bois verni, arbres taillés, balcons fleuris, cour ratissée, portail huilé, clôture érigée. Jacques était maniaque, tellement maniaque. Comment aurais-je pu imaginer? J'ai toujours refusé qu'il coupe le cerisier. Il ne l'a pas fait. Il cédait à tous mes caprices. Oui, oui, je le croyais vraiment. Puis le vent des affaires de l'agence a tourné. Il est devenu difficile de rembourser. Nous avons d'abord loué une partie du moulin, puis nous l'avons vendu à un jeune couple du village. Nous n'avons gardé que le donjon. Depuis quelques années, ils ont transformé le moulin des Chenevières en gîte. Cela fonctionne bien, apparemment. Je crois qu'ils n'attendent qu'une chose, que je disparaisse, pour récupérer quelques chambres supplémentaires. Il y a maintenant des balançoires dans la cour, un grand barbecue, des parasols et des salons de jardin. Ils parlent même de transformer le champ derrière le moulin en parc animalier. Ils ont commencé à installer des lamas, des kangourous et des autruches ou des émeus, je ne sais pas. Vous imaginez? Des animaux exotiques pour amuser les enfants. On ne peut pas les rater lorsqu'on arrive à Giverny en venant de Vernon par le chemin du roi. Dire que cet endroit, pendant des décennies, ce fut le moulin de la sorcière. Il ne reste plus que la sorcière. Moi. Plus pour bien longtemps, rassurez-vous. La sorcière va profiter d'un lendemain de pleine lune pour disparaître. On la retrouvera au petit matin, écrasée au pied du cerisier. Celui qui la trouvera lèvera les yeux et se dira qu'elle est sans doute tombée de son balai. Normal, c'était une vieille sorcière. Je serre une dernière fois les poils de Neptune dans ma main, fort, très fort. Puis je referme la porte du donjon derrière moi. Je monte vite l'escalier avant de l'entendre gémir.